faramineux. Donc, au programme de ce lundi, nous recevons le poète, romancier, essayiste Pierre Ouellette pour son recueil de poésie Outre. Et puis avec nous en deuxième partie d'émission, nous avons notre chroniqueur unique et préféré du lundi, d'ailleurs c'est le seul, Jamin Shtouki.
Oui, bonjour tout le monde.
Pour sa chronique du jour, pour son billet d'humeur et qu'il a intitulé « Inflation enflammée ». Vous êtes surpris ? Moi aussi. J'attends d'en savoir un petit peu plus dans la deuxième demi-heure. Mais pour l'instant, nous partons en musique avec Yann Perrot qui nous chante « Acrobate de l'éternité ».
Chez toi, je suis en état d'un péché démentiel. Depuis toi, j'ai la bête immortelle. T'es mon plus bel accident, mon intempérie sexuelle. T'as mis le nez dans mon jeu, la main sur mon butin. On a je suis né, j'ai toujours su que j'allais te rencontrer, toi mon garde du fou que je suis, mon passage à niveau, ma campagne de bistrot. À force d'escalader l'arbre d'aimer, on devient des acrobates de l'été.
Et voilà donc, comme promis, nous sommes avec Pierre Ouellette. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission.
Merci à vous.
Donc, on va parler, oui, de votre livre Dernier Recours et puis de Outre, livre de poésie que j'ai sous la main également.
D'accord.
Donc, vous êtes poète, romancier et essayiste. L'envie d'écriture chez vous a l'air d'avoir toujours coulé profondément. Comment on fait quand on passe du livre au poème ? Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est Je ne sais pas, moi j'ai le sentiment que c'est deux choses complètement différentes, mais peut-être que je me trompe.
Non, pas vraiment. Je pense que les écrivains sont un peu polyglottes. Hein. Comme on peut parler anglais, français, espagnol, on peut parler par le poème, par le roman, par l'essai. Il y a un même souffle, hein, un même style, je pense, qui traverse les trois genres. Dans mon cas, en tout cas, peut-être que pour d'autres écrivains, ça peut varier, mais pour moi, il y a une continuité entre les trois. D'ailleurs, il y a beaucoup de pensées dans la poésie, ce qui fait que ce sont comme des petits essais qu'on lit, beaucoup de réflexions. Oui. Il y a beaucoup de poèmes aussi dans une œuvre de pensée comme Dernier Recours, qui appartient au genre de l'essai, mais qui est porté par une langue qui est proche du poème et proche même aussi du récit, puisqu'il y a beaucoup d'autobiographie dedans. Et mes romans sont tous aussi bâtis à la fois sur un élan poétique, une profondeur réflexive, puis bien sûr une narration avec beaucoup d'action, beaucoup de passion. Donc il y a des points communs entre les trois genres et c'est ce que j'explore un peu dans mon travail.
Alors, dans les deux, parce que vous avez été donc professeur au département de littérature de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche au Canada en esthétique et poétique.
Voilà,
j'ai beaucoup aimé ça avant de vous demander de me l'expliquer un petit peu plus. Mais après, j'ai lu que vos recherches portent sur l'esthétique, le fictionnel, la parole, le rapport à soi et à l'autre. Et là, je me suis arrêtée là-dessus parce que le rapport à soi et à l'autre, je trouve ça extrêmement passionnant.
Oui, on a l'habitude toujours de voir le soi et l'autre comme deux personnes distinctes face à face. Alors qu'en réalité, on possède un autre en nous-mêmes.
Hein.
On
est tous bien d'accord.
Traversés par l'altérité, ce qui fait que finalement le rapport à soi-même est aussi le rapport à quelqu'un d'autre. On ne se connaît pas parfaitement, il y a toujours un inconnu, un étranger en soi. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans le rapport à l'étrange, à l'étrangeté, où on retrouve quelque chose de soi. On se reconnaît dans des choses qui ne nous ressemblent pas. Hein, où, moi, je n'ai pas l'impression que je suis constitué d'un seul bloc. Hein, il y a une hétérogénéité, comme on dit. Il y a plusieurs morceaux en nous, ce qui fait que on peut comprendre ce qui n'est pas nous, ce qui est autre, ce qui est vraiment très différent sur le plan culturel, même sur le plan linguistique, et le faire sien, hein, sans tomber dans ce qu'on appelle l'appropriation culturelle, bien sûr, mais en créant cet espace dialogique entre l'autre et soi, l'autre en soi comme le soi en l'autre, et c'est par ça, par cette espèce de liens qui existent en chacun de nous, entre ce qui est notre moi et ce qui est notre altérité. Et c'est qu'on rencontre l'étranger, qui est aussi un proche.
Et c'est la fameuse différence, d'accepter la différence. Alors,
oui,
c'est, assez, ça me fait sourire parce que parfois, assez souvent même, la différence, on l'accepte à travers les mots qu'un livre, un roman ou un poème va nous faire ressentir, alors qu'on peut ne pas l'accepter de la même manière dans le monde d'aujourd'hui, enfin dans le vivant, en ayant quelqu'un en face de nous.
Oui, mais je pense que la littérature nous apprend quand même hein, à apprivoiser cette altérité. Quand on lit, on est toujours dans la parole d'un autre, dans la tête d'un autre, même dans son imaginaire, dans sa mémoire. Donc on emprunte, c'est comme si on changeait de peau, hein, on emprunte son identité, que ce soit à travers un personnage dans un roman ou à travers la voix d'un poète, hein, qu'on adopte comme si c'était la sienne. Donc il y a cet apprentissage de l'autre à travers la lecture, à travers l'écriture, parce que quand j'écris, je me mets aussi dans la peau de mes personnages, dans la peau de mes narrateurs. Je sors de moi-même et je fais entrer les autres en moi. Alors il y a comme des vases communicants qui se créent grâce à la lecture et à l'écriture. Et moi, je pense que je vis avec beaucoup de monde dans ma maison parce que j'ai une bibliothèque remplie de livres qui viennent de partout.
Oui.
Alors, je cohabite avec plusieurs voix.
Je comprends ça. Quand j'ai lu Outre, le poème sur lequel je me suis le plus arrêtée, c'est au chapitre 7.
Oui.
Je sais pas si j'ose vous le lire parce que j'ai pas la voix pour lire des poèmes.
C'est à quelle page ?
Mais vous, c'est à la page 105.
105.
105, 106, 107, c'est là où vous parlez de...
Ah oui, il est tout petit, là. Hein?
Oui.
Pas de monde qui tienne sans cette rivière au beau milieu, l'épine dorsale plantée droite dans le corps de l'être, pour que son sang comme sa parole aille droit au but, la mer sans fin où il se perd.
Voilà, et après, ça continue sur une autre, et c'est ce moment-là, c'est ces pages-là qui sont venues plus me toucher,
oui.
Comme si on pouvait sortir de soi pour mieux se retrouver.
Oui, ah oui, la page suivante, il y a plus là cette question d'altérité dont vous parliez.
Oui.
Je tends la main aux hommes et aux femmes, aux bêtes et aux enfants, aux démons et aux dieux, non pas pour qu'ils lisent dedans les lignes de mon destin transposé vers par vers dans des poèmes de rien, mais pour les emmener loin, d'eux-mêmes, où ils se retrouveront plus vrais qu'ils n'ont jamais été. Sinon, avant de voir le jour, ils y verront de leurs yeux clos, la nuit éclose d'un seul coup.
Voilà.
Donc il y a aussi le rapport à la nature qui fait que aussi on est dans une autre forme d'altérité, hein, je dirais le tout autre. Bien sûr, il y a le rapport dialogique entre deux personnes, mais il y a aussi ce rapport avec l'immense, avec le trop grand, l'infini même, hein,
oui.
La mer, la nuit, le jour, la lumière. Et ce qui est une autre façon d'aborder l'hétérogène, ce qui n'est pas soi. Et dans lequel on se perd, dans lequel on se retrouve aussi, puisque la nature nous nourrit en même temps qu'on la perçoit, qu'on la caresse, etc.
C'est là où vous êtes, parce que l'endroit où vous vivez, vous dites même que vous êtes plus dans la nature que proche des gens. Vous voyez plus souvent des animaux, des arbres,
oui, ben
que des êtres humains.
Depuis les deux dernières années, là,
oui,
on vit à la campagne,
pire,
ouais. au bord de la rivière Richelieu, entouré de forêts. Et effectivement, on n'a jamais perdu le contact avec ce grand autre-là qu'est la nature, même si on a été un peu éloigné de nos proches et qu'on a été un peu isolé. Mais dans la forêt, au bord d'une rivière, on ne se sent jamais totalement seul. On est entouré par ces forces naturelles là, qui nous environnent.
Alors, vous l'avez titré « Outre ». Vous donnez une explication au départ que j'ai lue. Pour moi, l'outre, c'est cette espèce de poche en peau là, que l'on remplit d'eau et qui nous aide à traverser le désert.
Exactement, oui, c'est ça.
Qui donne goutte par goutte ce qui va nous donner la force de passer à travers.
Voilà. Vous savez, le mot grec pour âme, c'est pneuma, hein, comme on parle de pneumatique, d'un ballon d'oxygène.
Ah,
hein. Donc il y a cette idée, dès l'Antiquité, de voir l'âme comme une sorte de poche d'air, hein, d'outre à souffle, hein, qui nous permet de retrouver un peu notre respiration, de reprendre vie quand on en manque, quand on est essoufflé. Alors le poème, pour moi, ce sont de petites amphores d'air pur, comme ça, d'air vif, hein,
c'est
je
ça.
Mets à la disposition de ceux qui manquent de souffle. Donc un peu pour...
Et Dieu sait qu'on peut être nombreux.
Ok.
Pierre, nous allons faire une petite pause musicale et après on va passer à votre livre Dernier Recours.
D'accord.
À tout de suite. Alors on écoute Alicia Deschênes qui nous chante Aimez-moi.
Aimez-moi clou, aimez-moi saint, aimez-moi fuir. Aimez-moi partout, aimez-moi maintenant, aimez-moi sans dire. Aimez-moi genoux, aimez-moi néant, aimez-moi encore. Aimez-moi debout, aimez-moi géant, aimez-moi plus fort. Aimez-moi demain, aimez-moi sans fin, aimez-moi toujours. Aimez-moi de nuit, aimez-moi matin, aimez-moi d'amour. Aimez-moi de noir, aimez-moi de bleu, aimez-moi détresse. Aimez-moi de vœux, aimez-moi d'espoir, aimez-moi promesse. Tout ce que je veux, c'est être aimé. Aimez-moi déni, aimez-moi secret, aimez-moi dans l'ombre. Aimez-moi de pluie, aimez-moi de craie, aimez-moi plus sombre. Aimez-moi remords, aimez-moi regrets, aimez-moi douleur. Aimez-moi conscience, aimez-moi sensible, aimez-moi sans peur. Tout ce que je veux, c'est être aimé. Tout ce que je veux. Aimez-moi à corps, aimez-moi des tours, aimez-moi quand même. Aimez-moi aurore, aimez-moi lueur, aimez-moi sans gêne. Aimez-moi lumière, aimez-moi redoux, aimez-moi chaleur. Aimez-moi de froid, aimez-moi de grêle, aimez-moi de pleurs. Tout ce que je veux, c'est être aimé. Que je veux être aimé.
Et nous revoici avec Pierre Ouellet. Donc là, on va parler de dernier recours.
Oui.
Alors, dernier recours, vous présentez dernier recours et outre le jeudi 24 mars, il faut quand même que je le dise, en double lancement et causerie de 18h à 20h.
Voilà, la librairie Zone Libre. Hein, sur
la librairie
rue,
Zone Libre, voilà.
Sur la rue Sainte-Catherine, voilà.
C'est ça.
Oui, ben, écoutez, j'ai écrit les deux livres en alternance, au même moment, pendant les deux dernières années, là, qui viennent de s'écouler, où on était frappés par cette pandémie. Et dans les deux cas, il s'agissait de donner cet air, là, qui nous manque tant, pas seulement parce que le virus s'attaquait aux voies respiratoires, mais aussi parce que on a vécu comme ça, un peu isolés les uns des autres, beaucoup de rapports, de liens. Et pour moi, le lien qui persistait, qui perdurait malgré tout, c'était celui qu'on entretient avec la parole, avec la langue, avec la voix. Vous avez passé une très belle chanson tantôt et ça me fait penser que exactement comme la musique, le chant, le poème et l'essai sont des liens qui peuvent exister comme ça, un peu secret, un peu intime entre les gens, même s'il y a des murs entre nous, même s'il y a une distance qui nous sépare. Ça passe par-dessus les obstacles, hein, cette voie. Alors là, moi je vois un peu dernier recours comme une sorte de bouée de sauvetage qu'on nous lance comme ça, hein, de loin,
oui,
pour qu'on l'attrape et puis qu'on sorte de notre petit marasme personnel et qu'on atteigne le rivage, qu'on atteigne une île,
oui, mais...
une île, quelque chose qui nous permette de retrouver un tremplin dans notre vie et rebondir. Alors c'est cette idée forte là, qui travaille tout le livre. Il y a une première partie qui porte le titre du livre, Dernier recours, et une deuxième qui s'appelle Souffler, un peu comme ces outres qui sont des poches d'air, des ballons d'oxygène. Il s'agit encore une fois de nous donner la respiration, non pas tellement artificielle, mais artistique si on veut, hein, presque surnaturelle, qui va nous projeter au loin, nous envoyer au-delà, pour ne pas qu'on s'enlise, qu'on se noie, hein, qu'on touche le fond. Alors, il y a toute cette réflexion qui s'appuie sur beaucoup de traditions, notamment la tradition biblique. Il y a beaucoup de paraboles, de prophéties de l'Ancien Testament qui nous rappellent ce genre de choses, comme l'Arche de Noé, l'échelle de Jacob, toutes ces moyens de secours, hein, que les anciens ont imaginés pour nous porter un peu au-delà de nous-mêmes, nous amener ailleurs que dans notre petit présent. Donc, je m'appuie sur ça et sur les mythes grecs aussi, et beaucoup sur la poésie et la littérature d'aujourd'hui, pour montrer comment on a un dernier recours, malgré le fait qu'on sente la fin, que ce soit à cause de la pandémie ou des changements climatiques ou des menaces de guerre qu'on ressent aujourd'hui. On est toujours devant une espèce d'échéance. Et là, il y a un rebond possible qui nous permet d'aller au-delà des horizons qui semblent bouchés devant
nous. Le rebond, alors comme vous dites, moi ce qui me fait penser à ça, c'est aussi la phrase que j'entendais quand j'étais petite fille, « Et de toi et le ciel t'aidera ».
Oui,
c'était aussi à dire que on peut pas s'affoler de ce qui se passe et puis rester, j'ai envie de dire, le cul sur sa chaise, à pas bouger pour soi. Il faut aussi acter des choses.
Oui, exactement. Oui, oui. Il y a un très beau vers aussi de René Char qui dit « Aujourd'hui est un fauve, demain verra son bon ». Hein, aujourd'hui, il y a ce fauve-là qui est prêt à sauter et il faut lui donner
la
possibilité de bondir. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas rester victime. Il faut essayer de se tenir debout.
C'est ça. Vous dites, enfin, parce que ce dernier recours, je ne l'ai pas lu. J'ai lu outre, mais je n'ai pas lu dernier recours. Mais
d'accord.
Quand je vois la présentation de votre livre, c'est... quelqu'un parle dans la nuit noire où l'on s'enfonce et sa parole lui revient comme un boomerang pour le tirer de l'ombre et nous ramener avec lui dans la lumière où l'on voit plus loin que soi, le noyau de sens où un nouveau Big Bang retentira. Rien que ce petit extrait-là donne envie de prendre votre livre et de le lire.
Oui, merci. Mais c'est vrai que c'est une sorte de continuité avec Outre, où je mets en acte quelqu'un justement qui manque de souffle, qui cherche dans la langue ce ressort qu'il lui faut pour respirer à nouveau et sortir la tête de l'eau. Et là, c'est beaucoup plus une explicitation à travers toute l'histoire, l'histoire récente bien sûr, mais comme je le disais tantôt, l'histoire antique aussi, ce besoin qu'on a de recourir à la parole avec un grand P, à la voix avec un grand V, pour nous élever au-dessus de notre condition de mortel et donc dépasser nos limites, dépasser notre ici maintenant pour aller explorer cet ailleurs qui est toujours devant nous, malgré le fait qu'on sente la faim comme à des moments, comme au moment présent où il y a des menaces qui pèsent sur nous.
Oui, c'est ça. Donc, il faut dire, puisqu'on arrive pratiquement à la fin de l'entrevue, donc Dernier Recours est aux éditions Mains Libres. On peut le trouver. Et Outre, c'est les éditions du Passage.
Voilà, exactement. Donc, et puis, on aura l'occasion d'en parler plus longuement lors de ce lancement qui aura lieu jeudi.
Jeudi 24 mars, donc de 18h à 20h, à la librairie Zone Libre à Montréal, qui est, l'adresse, c'est 262 rue Sainte-Catherine-Est.
Voilà, exactement.
Voilà. Donc ça c'est bien parce que les deux, l'un comme l'autre, enfin moi j'ai lu que Outre, mais quand je vois la présentation, je trouve que les deux s'entremêlent.
Oui, tout à
dans
fait.
Dans leur discours. Oui. Donc écoutez, on vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup d'avoir été notre invité
et de nous avoir répondu. Merci de votre appel et de votre écoute. Merci bien.
À bientôt. Au revoir. Donc on va partir en musique avec Chose Sauvage. J'aime beaucoup, qui nous chante Nuages. Il s'est bien débrouillé pour la musique, Nicolas, aujourd'hui, mais je lui dirai merci après.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
voilà, donc merci à Pierre Ouellette. Et puis, on en reparle à la fin. Pour l'instant, on va se préparer parce que c'est Germain Stucki qui arrive à petits pas, à petits pas.
Oui, donc, pas tout de suite, on est tranquille.
Mais non, pas tout de suite. On va faire d'abord une petite pause pour que vous sortiez un petit peu du côté poétique, livresque, et que vous ne vous attendiez pas à ça avec Germain. Quoique, des fois, de la poésie, il arrive à nous en faire, même malgré lui.
C'est cela, exactement.
Et
je
là,
le fais pas exprès.
Tu le fais pas exprès. Et là, on va parler d'inflation enflammée. Je vois pas bien où tu vas te diriger, mais comme je me tiens pas très au courant de ce qui se passe dans la vie de tous les jours et que j'écoute pas trop les journaux,
je t'apprendrai
des
choses.
Tu vas m'apprendre des choses.
Et puis comme d'habitude, comme je ne veux pas vendre mes punchs, je ne peux pas en dire plus.
Et tu vas me demander de me taire pour pas que je donne le punch avant toi, si jamais.
Pas grave, je ferai une petite tape sur la main.
Bon, bah alors restez avec nous, on retrouve Germain Stucki dans un instant. À tout de suite.
Reconnecter Diego.
Salut tout le monde, ça va bien?
À ses collègues.
Hey! Allô le petit nouveau.
Et ses collègues, à Diego.
C'est parce que ça fait 7 mois que j'ai commencé.
Il y a la STM. La meilleure façon de se reconnecter.
Talking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. And ends, but that's me, I'm stumbling away, slowly learning that life is okay, and say after me, it's no better to be safe than sorry, and take on. You say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway, take on.
Et voilà, nous venons d'écouter A.A. qui nous chantait la super belle chanson Take On Me. Et tu disais, Nicolas, qu'ils avaient refait un...
C'est ça, il y a fait une reprise de la chanson en 2017, yes.
C'est très beau aussi, encore. Voilà, donc maintenant, roulement de tambour ou pas, on ne le sait pas, donc on ne va pas les faire tout de suite. Jamin Chtouki est avec nous pour Inflation Enflammée.
Oui, Inflation Enflammée. Pourquoi ? Parce que ben, nous sommes dans une période très particulière, hein. Les événements qui se passent ici, les événements qui se passent ici et dans le monde ont un effet immédiat et assez dévastateur sur notre vie de tous les jours, l'augmentation des prix. Hein,
oui.
Même si tu ne regardes pas les infos, etc., quand tu fais des courses, tu l'as remarqué.
Oui, ça, j'ai remarqué. Oui, oui.
C'est fou ça.
Je suis quand même quelque chose qui me concerne.
La baisse de ton porte-monnaie.
Voilà.
Et c'est fou ça. Tout augmente, sauf les revenus. Hein ?
Ah oui.
Mais à mon sens, ce n'est pas les salaires qu'il faut augmenter, hein, car on ne peut pas indéfiniment faire peser les charges sur les commerces, du moins les plus petits, hein, qui ont déjà du mal avec les deux années qui viennent de passer.
Au combien ?
Par contre, c'est absolument faire baisser les prix. C'est ça, à mon avis, le nerf de la guerre. Oui, je sais que la vérité n'est pas bonne à dire, qu'elle peut blesser les gens, car la vérité, c'est comme le fisc, faut pas tout déclarer. Prenons le prix de l'essence. On a atteint pour la première fois près de 2 dollars le litre.
Ouais.
Tu te rends compte ? Quand moi je suis arrivé en 2016 ici, je fais une petite aparté, le prix de l'essence était aux environs de 90 centimes.
Voilà, c'est ça.
Donc là, on est à plus du double en même pas 5 ans. C'est énorme. Alors, pour celles, donc du coup, près de 2 euros de litre, pour celles qui rêvent du prince charmant qui arrive sur son grand cheval blanc, je leur dis... Gardez espoir, avec la hausse du carburant, ça devrait plus tarder. Oui, la station-service d'essence, eh ben c'est le seul endroit où tu tiens le pistolet, mais c'est toi qui te fais braquer.
Oui, c'est ça.
Et j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oui, la bonne, eh ben, le prix du papier de toilette est relativement stable. Par contre, il faudra s'habituer à aller le chercher à pied.
Oui, non, mais c'est pas, je ris, mais c'est pas drôle du tout.
Mais si, justement, tu peux, plus... c'est fait pour. Autant en rire, hein, on en pleure chaque fois qu'on doit sortir son porte-monnaie, donc autant en rire maintenant. Mais même l'art est touché, même les artistes sont touchés. On ne peut plus déjeuner en paix, car Stéphane est cher. Mais c'est rien du tout par rapport au prix de l'essence. Les compagnies pétrolières, pour continuer à gagner des milliards, oui, des milliards, hein, elles trouvent toujours de bonnes justifications pour, comment dire, justifier la hausse du prix du carburant. Hein ? Meilleure efficacité du moteur, qui s'accompagne par une diminution de la consommation, avec ajout de lubrifiant dans le carburant pour améliorer les performances du moteur. Et vu le prix de l'essence, heureusement qu'il y a le lubrifiant.
Ça fait moins mal.
Bientôt, le litre d'alcool coûtera moins cher qu'un litre de carburant. Ça y est, j'ai la réponse au dicton, boire ou conduire, il faut choisir. Et bon, il est vrai qu'en tant que Belge, j'avais déjà choisi, hein. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si tu le sais, toi Arlette, tu sais que c'est en Belgique qu'on trouve le plus grand nombre de petites voitures sans permis.
C'est pour pouvoir rentrer chez eux après avoir bu.
Les voitures où tu mets un moteur à tondeuse à gazon, tu vas plus vite à pied quand t'es à côté, ça fait brrr. Oui, ils en vendent des millions. Nous, en Belgique, boire ou conduire, on a choisi. On fait les deux. Et pendant le confinement, eh ben, on a appris à faire plein de choses. Par exemple, on a appris à faire du pain. Hein ?
Oui.
Eh ben là, je suis en train d'apprendre à faire de l'essence. Je vous tiens au jus. Bon, je vais essayer de ne pas tout faire exploser, bien entendu. Mais comparé à l'explosion des prix, je ne risque rien. Car aujourd'hui, ça y est, je vous l'avoue, je suis un employé écologiste. Oui, mon salaire est devenu hybride. La moitié passe en essence et l'autre en loyer. Car les loyers aussi connaissent une augmentation sans précédent. Hein ?
Oh oui.
Hein ? On essaye de nous faire passer la pilule en nous disant qu'on a les loyers les moins chers d'Amérique du Nord. Hein ? À Vancouver, Edmonton ou Toronto, c'est 10 fois plus cher. Et là, moi, pour une fois, je suis d'accord avec le fait de niveler, mais vers le bas. Ce sont les autres qui doivent tendre les loyers vers le bas en diminuant les loyers à notre niveau et non pas l'inverse. Mais entre l'argent et l'intelligence, il y a toujours une différence. Une grosse différence. Et nous les consommateurs. D'ailleurs, Arlette, tu as remarqué que le mot, il commence par con. Et le con a deux cerveaux. Le premier s'est perdu et le second est parti à sa recherche. Et les cons ne sont peut-être pas là où on pense. C'est vrai, on vient de passer deux années compliquées. La pandémie, où on a été confinés et les commerces fermés. On nous a donné de l'argent pour rester fermés ou pour rester chez soi, au lieu de le mettre dans l'économie et le système de santé. Ce qui a entraîné une problématique d'approvisionnement. Non mais c'est vrai, les étagères des épiceries sont pratiquement vides. Sauf pour les prix, qui eux sont gonflés et bien présents. Bientôt, manger des pâtes sera devenu un luxe.
Heureusement que j'en ai d'avance.
Tous les commerces sont back-order de stock. Ils n'arrivent pas à recevoir leurs produits. Et en plus, il y a une pénurie de main-d'œuvre généralisée. Car les quotas du gouvernement empêchent d'accueillir des travailleurs, des méchants immigrants qui nuisent à la vie des Québécois et du Français. Les cons seraient donc à l'Assemblée nationale plutôt que dans la rue. Quand dogme et nationalisme amènent pauvreté et conflit, ça me rappelle quelque chose qui se passe dans l'Est de l'Europe, ça, non ? Enfin bon. Alors j'ai trouvé une complainte de circonstance. C'est un peu d'argot français, mais je pense que tout le monde va la comprendre. C'est la complainte du légume. Quand t'as plus un radis, plus de beurre à mettre dans les épinards, ni de piment dans ta vie, tu te dis que les carottes sont cuites, que c'est la fin des haricots. Tu te prends le chou pour un rien, t'as du sang de navet et la tête comme une citrouille. Tu ne te mêles même plus de tes oignons. Bref, t'en as gros sur la patate et tu te fais un sang d'encre. T'es juste bon à bouffer les pissenlits par la racine. Et je ne vous raconte pas de salade. J'ai beau avoir un petit pois dans le ciboulot et un cœur d'artichaut, je ne suis pas né de la dernière pluie. Alors, plutôt que de faire le poireau comme un cornichon, je préfère appuyer sur le champignon. Quoi ? Je fais pas le pois ? Chiche. Non, je ne suis pas déprimé ou pessimiste ou aigri. Non, juste déçu. Déçu de voir la direction que l'on emprunte et qui n'augure rien de bon si on continue dans cette voie. J'espère qu'il y aura un mois d'octobre prochain rebelle, que les voix des urnes seront plus fortes que les voix des politiques. Aujourd'hui, si je dois passer une petite annonce dans le journal, voilà ce que cela donnerait. Cherche un électricien pour rétablir le courant entre les gens qui ne se parlent plus. Un opticien pour changer le regard des gens vis-à-vis des autres. Un artiste pour dessiner un sourire sur les visages. Un maçon pour bâtir la paix. Et enfin, un professeur de maths pour réapprendre à compter les uns sur les autres. À bon entendeur, salut.
Je savais que tu pouvais faire un petit peu de poésie, ou en tout cas la trouver. Allez, on y va en musique avec Corridor qui nous chante Topographe.
We'll be right back.
Et voilà, donc, comme je le disais tout à l'heure, Jamin, parfois, la poésie t'effleure de son aile. Ouh, comme c'est beau, moi aussi, j'en fais.
Mais je ne le fais pas exprès. Je ne le fais pas exprès. Je ne sais pas d'où ça sort, ça vient comme ça. Ah bon ? Ben voilà, écoutez, je me mets... Et oui, mais on peut rire de sujets qui sont un petit peu... Je ne veux pas dire dramatique, hein, mais il faut pouvoir en rire. Tu te retenais, je ne peux pas en rire. Mais si, on peut en rire.
On peut demander au gouvernement de nous aider avec toutes les taxes qu'on paye. Ils nous en font payer un petit peu moins. Ils en reçoivent quand même. Et nous, du coup, ça fait un petit peu moins cher.
Exactement.
Une lettre ouverte.
Une lettre ouverte, oui, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça. Mais la lettre ouverte, elle est en octobre. Hein, c'est ce que j'ai mis. Ça s'appelle des élections. Et à partir de là, si chacun se souvient et fait attention, en âme et conscience, de ne pas renouveler, le maître mot du Québec, je me souviens. Et de ne pas renouveler avec ceux qui sont en poste parce qu'ils ont prouvé pendant 5 ans qu'en fait, ils ne savaient pas. C'est savoir que quand ils sont arrivés au pouvoir, il y avait, je crois, 3 milliards de surplus qui avaient été faits par le gouvernement précédent. Donc je ne vais pas commencer à dire les couleurs, etc. Il n'y a plus rien dans les caisses. En 5 ans, il a tout dilapidé. Et on ne va pas juste me dire que c'est la pandémie, hein, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça, il dit, il va quoi, les 5 ans qui arrivent, quoi, il va encore creuser de la dette. Et on va se retrouver dans 5 ans, encore plus dans une marde. Il dit, c'est maintenant qu'il faut faire attention à ça. Mais il faut aller voir ces informations-là.
Voilà,
et on n'en parle pas.
Il faut aller à la recherche de ça, oui, parce que c'est pas de ça dont on nous parle, donc
non.
Il faut le savoir.
Non, on préfère
parce que c'est quand même nous qui payons.
Tout à fait, à la sortie.
À la sortie, hein, c'est bien ça.
Mais donc voilà.
Bon, on ferme la parenthèse politique. Parce que moi, politique, c'est pas ma tasse de thé. Je connais pas assez pour faire une entrevue.
Chacun doit
avoir
midi à sa porte, comme on dit.
Tout à fait. D'ailleurs, ça me ramène à Pierre Ouellet tout à l'heure et à ses textes. Bougeons-nous, allons voir, allons demander, allons. Voilà. Ne restons pas à dire ah mon Dieu, ah mon Dieu.
Ne subissons pas, soyons un peu actifs.
Comment on peut faire autrement? Voilà, c'est aussi cette forme de solution.
Soyons dans l'action.
Voilà, soyons dans l'action, cherchons une autre manière de faire. Que se passe-t-il à la Comédie ?
Ah bon, il va se passer beaucoup de choses, là on enchaîne sur 10 jours d'affilée. Ce soir on démarre, on est complet, je suis très heureux, mais il y en a une dans 15 jours. Les nouvelles soirées d'humour, tout ou rien, tout ou bien où les artistes vont devoir venir faire un numéro qu'ils n'ont jamais joué. Et
l'idée a bien fonctionné.
Ça a l'air.
Tant au niveau public qu'au niveau des comédiens qui sont sur scène.
Oui, j'ai déjà mon pacing, comme ils disent, pour ce soir et quasiment celui de dans 15 jours. Maintenant, est-ce que les gens vont adhérer dans la soirée même ? Est-ce que ça va être bon ? Je pense que oui, parce que j'ai quand même des artistes qui tiennent la route, qui sont talentueux, qui ont de l'expérience. Mais c'est une première qui a l'air de partir. Maintenant, il faut que ça se pérennise tous les 15 jours.
Que toi tu vas être sur scène aussi ?
C'est moi qui anime et donc moi qui fais l'introduction avec un numéro et je vais prendre une partie de ce que j'ai fait là justement sur l'inflation et puis après c'est moi qui anime et qui introduise à chaque fois les artistes.
Est-ce qu'on peut nommer ceux qui sont là ce soir ? Tu les as tous en tête ou pas ?
J'ai Jean-Marie Corbeil.
Ah très bien.
J'ai Monsieur Radi qui faisait les soirées folles avec moi aussi. J'ai Gab Dagenet. J'ai Florence, une Française, Florence Aubussière, je crois, si j'écorche son nom, qui m'est présenté par Monsieur Radi, un jeune humoriste qui a démarré en septembre Dédé. Il y a Colin Boudria, qui a fait l'émission Le Prochain Stand-Up, qui me fait le plaisir et l'honneur de participer à cette ouverture. Et puis, c'est pas un nouvel humoriste, mais oui, c'est un nouvel humoriste, parce qu'il a fait du théâtre, mais il y a très longtemps, il va se relancer ce soir, c'est Steve. Donc voilà, on sera 6 ou 7 ce soir à
se lancer. Ah, c'est bien, dis donc.
À faire chacun à 5-10 minutes, je sais pas, on va voir comment ça va se passer avec le public et leur réaction.
D'accord, alors après, ils mettent une jauge aussi d'applaudissements pour ceux qui reviendront le plus souvent. Est-ce que tu fais en sorte qu'ils reviennent ou dans 15 jours, ça va être des gens complètement différents ?
Dans 15 jours, il y aura peut-être, je pense, un ou deux, voire trois. C'est pas tant les artistes que c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait du neuf. Et puis, bien sûr, il va y avoir un roulement entre les artistes. Ça va pas toujours être les mêmes, comme c'est pas toujours moi qui vais présenter. Une autre fois, ça va être Monsieur Radi ou Gab Dagenet.
D'accord.
Pour qu'on puisse justement se concentrer après chacun sur un numéro spécifique. Et donc, les gens, en fait, oui, ça va être plus sur leur réaction par rapport aux réactions qu'on pourra dire. Et à la fin, quand je vais arriver, je dis, bon voilà, est-ce que ça vous a plu, moyen, pas? Et comme ça, l'artiste pourra avoir en plus de... Parce que parfois, on a des publics qui sont silencieux. Donc, ils peuvent avoir apprécié, mais ne pas s'être exprimés.
Oui,
donc, tu ne peux pas te fier que à ça. Donc, je vais là, à la fin, c'est pour ça qu'on va animer et dire, bon là, ça va, ça s'est bien passé. Comment vous avez trouvé? Est-ce que c'était sympa par applaudissement? Oui, non? On dit, bah voilà, tu le sais, ce texte-là, tu peux le garder, continuer à le travailler. Ce texte-là, tu le jettes à la poubelle et on n'en parle plus. Ça reste entre nous.
En fait, c'est quand même un petit peu humiliant dans le sens où l'autre... ce sont les gens qui sont dans la salle qui vont juger,
le public,
donc le public, il va y en avoir d'autres publics, donc ils sont tous valorisés par comment dirais-je, bah, par exemple je vais mettre moi, j'y vais un soir, il y a quelqu'un que j'aime vraiment énormément, puis un autre que j'aime pas du tout, mais peut-être ce que j'aime pas du tout va être aimé par d'autres.
Oui, tout à fait, et puis je te dis on peut faire aussi un texte qui n'enlèverait un autre talent, mais qui n'est pas bon ou qui n'est pas drôle, on n'en sait rien. Mais moi, je fais toujours...
Comme ça, t'arrives jamais?
Bien sûr que ça m'arrive. Donc, quand je fais mes spectacles, je dis, tiens, cette vanne, et puis ça ne marche pas. Ou inversement, tu sors une joke, et puis les gens rient, tu dis, pourquoi ils rient? C'était pas prévu. Mais c'est ça qui est dur en humour. Mais c'est toujours le public, à mon sens, qui a...
Le dernier mot.
Ouais, le maître mot. Mais c'est fait de manière bon enfant. Ça ne va pas être humiliant ou autre. On va le faire. On est dans des séances de travail. Je vais préparer le public
bon,
à ça.
Dis,
on ne vient pas pour flinguer
jeter,
les artistes.
Ouais, voilà, c'est ça.
Non, mais c'est une manière. Et puis, ça va être de manière humoristique.
Oui.
Mais on se prend au jeu aussi. Et il faut... Parce qu'on perd... Tu sais, c'est les fameuses séances de travail. On s'est perdu. Parce que quand tu vas dans des endroits, tu es obligé de performer ici.
Oui,
parce que tu as un petit cachet, tu as un machin. Donc, tu n'as plus vraiment l'occasion de tester à vide. Donc c'est ça, c'est prenez des risques les gars, ou les filles, parce que c'est tout humoriste sont acceptés, et on verra bien. Et puis je vais mettre en condition les gens pour leur dire, vous n'êtes pas là pour flinguer les artistes, vous êtes là pour les aider, etc. Si jamais ce n'était pas forcément au top, bon, ben, il sait qu'il doit retravailler, ou alors il sait que cette idée n'est pas bonne. Tu comprends? On va, c'est pas, bah, écoute, c'est mauvais, dégage. Non, on n'est pas comme ça. Parce que sinon, ils ne viendront plus.
Tout à l'heure, quand tu m'as dit « Ah, bah tu le mets à la poubelle, t'entends ?» Je fais « Bon. »
Oui, mais entre nous, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est, ouais. Moi, il y a des trucs que j'ai écrits qui ne sont pas bons. Et puis, que, bah, c'est, oui. Mais c'est normal. On ne fait pas que de la qualité. Et dans cette quantité, bah, tu en ressors la quintessence.
D'accord.
Et puis, on a le nouveau spectacle vendredi, « Deux filles, un gars ».
Ah,
j'espère que tu viendras.
Alors ça, je vais aller le voir.
Et oui, ça marche très bien.
Je vais aller le voir et je t'en parlerai le lundi.
Exactement.
Justement, je ferai ma critique en face.
C'est ça. Et non, mais là, comme j'ai déjà joué, ça se passe super bien. Les gens adorent. C'est original. C'est qu'il y a plein de petites choses. C'est vraiment fun. Et puis samedi, bah, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. J'en suis à ma cinquième saison.
Ça a marché fort, ça. Hein,
ça marche toujours fort.
Ça marche toujours fort.
Toujours du monde là-dessus. Les gens adorent. Ça se passe super bien. Et c'est toujours un plaisir de le jouer. Donc, non, ça va, on est correct.
Comme quoi, les leçons qui sont données là-dedans ne sont pas assez apprises. Ils reviennent pour se dire, attends, qu'est-ce que j'ai oublié dans mon couple?
Oui, non, mais c'est vrai, parce que la vie de tous les jours, les habitudes nous tuent, la routine.
Oui.
Et là, tu remets un petit reset à chaque fois. Et il faut le reconnaître, ça marche. On a beau dire, oui, c'est sexiste, c'est cliché, c'est passé... Non, parce que ça
mais
parle
non,
pas des
pas
hommes,
cliché,
des femmes,
c'est...
ça parle de notre côté, mais c'est ça qu'ils ne voient pas. Eux, ils voient homme-femme, moi je ne suis pas comme ça. Mais non, mais c'est un côté féminin, un côté masculin.
On possède, chacun de nous possède
voilà.
Les deux, j'ai aussi mon
chez
côté
l'un,
masculin.
Chez l'autre, quelle que soit ton orientation sexuelle, parce qu'on ne parle pas que de la vie de couple. Et c'est ça que, et les gens s'y reconnaissent, et, tu l'as vu, et tu es là, tu dis bah oui, mais
je l'ai lu, je l'ai vu, après ce que tu en avais fait, et puis on s'amuse avec toi sur scène, oui, tout à fait.
Tout à fait.
Mais c'est des leçons de vie qu'il faut toujours garder. Eh bien, nous sommes à la fin de cette entrevue, donc on va partir en musique avec Alexandre Béliard, talentueux Alexandre Béliard, qui nous chante « Pensée devant ».
Et pour nos mères, pour nos grands-mères, pour toutes celles qui avant elles, et pour nos filles, et pour leurs filles, pour toutes celles qui viendront après elles, danser devant, en route tout le temps, pour ne pas toujours recommencer, mieux que naguère. Est-ce que demain sera hier? Prendre la parole pour que les barrières s'envolent et pour se défendre, pour enfin se faire entendre, pour se souvenir et pour le droit de choisir. Danser devant, en route tout le temps, pour ne pas toujours recommencer, pour ne pas toujours recommencer, pour bouger les choses, enfin du pain et des roses. Pour plus de justice, pour toujours plus de justice, bien sûr contre la violence et contre l'indifférence, pour entretenir l'espoir, pour plus de femmes au pouvoir. Pensez devant, en route maintenant, et d'une seule voix face à l'ignorance, la peur de l'autre et l'intolérance, et d'une seule voix au-delà des différences, toujours vers l'égalité, pour ne pas toujours recommencer. Ne pas toujours recommencer, pour ne pas toujours recommencer.
Et voilà, donc nous finissons cette émission. Donc on va dire merci à Pierre Ouellette, merci à Jamin Stouki.
Avec plaisir.
Merci aussi à Nicolas Wartmann pour la technique et les chansons. Et puis surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis moi, je vous dis, bien, avec Nicolas, on vous dit à demain.
C'est ça. Et moi, à la semaine prochaine.
Et toi, à la semaine prochaine, Jamin. Au revoir, merci.
Bye bye.